Bonjour et bienvenue sur mon podcast Place aux Jeunes, un podcast qui donne la parole aux jeunes sur divers sujets sociétaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elliot. Merci d'être présent.
Bonjour.
Tout d'abord, présente-toi en quelques mots si tu peux, donner ton âge, les études que tu fais et en quelle année tu es.
Donc du coup, moi je m'appelle Elliot Rennes. Je suis en Master 1 en ETA, donc ça veut dire environnement et territoire et acteur. Donc du coup, avant ça, j'ai fait une licence en géographie, parcours environnement, voilà.
Ok, et ça peut aboutir dans quoi justement ce Master ETA?
Donc ce Master, il est majoritairement axé sur à la sortie, on va faire beaucoup de gestion, travailler dans des bureaux d'études, voilà, un peu tout ça.
Et toi, tu ambitionnes quoi comme métier?
Donc, moi, j'ambitionne certainement de faire de l'hydrologie. Donc, d'être hydrologue. Donc, il y a aussi une dynamique et une démarche, surtout une démarche de gestion donc des cours d'eau et des zones humides.
Et qu'est-ce que c'est, cette gestion? Quels sont les objectifs d'être hydrologue? Les perspectives pour la suite? C'est quoi concrètement pour les gens qui ne connaissent pas ce métier?
Donc, l'hydrologie, c'est un domaine assez vaste. La spécificité que j'aimerais amener, dans laquelle j'aimerais travailler, ce serait vraiment sur... j'en avais déjà parlé sur la table ronde la dernière fois, que nous, on était dans des espaces avant qui étaient ouverts et donc qui étaient interconnectés entre eux. Maintenant, on se retrouve dans des espaces qui sont plus fermés. Donc, par exemple, une zone humide va être, ou une tourbière va être fermée avec l'artificialisation qu'il y a actuellement. Donc, du coup, ça augmente la fermeture de ces espaces-là. Et donc, il y a une nécessité de gestion parce que cette nature, elle nous rend des services écosystémiques qui sont importants pour nous. Et donc, du coup, la meilleure manière de gérer un espace en tant que tel, et c'est ce qu'on apprend en cours, c'est qu'au final, c'est de rien faire. Donc, du coup, dans le meilleur des mondes, on ne fait rien. Et si jamais... on doit intervenir parce que, je ne sais pas, il y a eu des phénomènes importants ou, par exemple, une tempête ou justement avec le changement climatique, des fois, il y a des dégradations qui sont censées être normales et naturelles, comme on dit. Mais nous, du coup, ces dégradations-là, on doit pouvoir faire en sorte de les régler et du coup d'intervenir sur ces milieux-là.
Ok. Je vais parler un peu plus de l'aménagement littoral. Je pense qu'il parle à beaucoup de personnes et qu'il y a un phénomène vraiment d'actualité pour le coup. Là où on parle, on est en Bretagne. Il y a un afflux vraiment conséquent de touristes d'année en année. Je n'ai pas les pourcentages en tête, mais c'est vraiment une région qui attire. Et c'est une bonne manière de pouvoir se poser la question en matière d'aménagement littoral. Comment on peut concilier ce développement un peu touristique et les cours d'eau, le littoral dans sa globalité, en Bretagne par exemple?
Donc alors la Bretagne, c'est un cas assez particulier parce qu'on est dans une région qui a, en termes de littoral, qui a une ouverture sur trois faces, donc sur le sud, sur l'ouest et sur le nord. Et du coup, ça fait qu'on a énormément de zones littorales à gérer et qui sont très attractives d'un point de vue du littoral en lui-même, mais aussi d'un point de vue du climat, que ça soit aujourd'hui ou dans les prochaines années, dans les 10, 20, 30 années qui vont venir. La Bretagne, ça va être un endroit qui va être de plus en plus touristique. Et donc, ça va amener d'autres enjeux et d'autres problématiques qui vont arriver avec ça, notamment celle de peut-être de la pollution, de l'affluence. Et donc, ces problématiques sont indirectement et même directement liées.
Ok. On sait que 53% des eaux du littoral sont décrites comme moyennes à mauvaises. Si on considère les pollutions, les déchets plastiques, ce genre de choses, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, la pollution en zone littorale, c'est un problème qui est souvent pris par un prisme assez local. Donc cet été, par exemple, je vais prendre un exemple concret pour être parlant. J'avais des amis qui m'avaient dit qu'il y avait on était à Saint-Malo, moi je travaillais là-bas, Et il m'avait dit qu'il y avait une zone qui était interdite aux baigneurs parce que justement, il y avait ces restrictions-là à cause d'une zone de pollution. Et ils m'ont dit oui, mais c'est parce qu'on pollue beaucoup sur la zone littorale, etc. Et je leur ai dit que bah, non, en fait, on ne pollue pas sur la zone littorale, on pollue en amont. Donc, quand il s'agit de pollution et des pollutions dans les cours d'eau, et bah, y a un phénomène qu'il faut prendre et il faut dézoomer énormément et justement prendre ce phénomène de manière systémique. Donc, une pollution qui va arriver, je reprends cet exemple-là, une pollution qui va sortir de la Rance, par exemple, qui va arriver du coup dans la baie de Saint-Malo, et cette pollution elle va être arrivée en amont avec des intrants agricoles qui vont être drainés lorsqu'il va pleuvoir sur les surfaces. Donc, ça va arriver dans le cours d'eau avec la pollution, par exemple, la pollution qui pourrait arriver de Dinan à cause du fait que ce sont des zones qui sont artificialisées. Donc, du coup, on a toute cette eau qui va être chargée avec donc des intrants agricoles, des antibiotiques, des pollutions diverses qui vont faire que du coup, toute cette pollution va être concentrée dans le système hydrographique et arriver du coup à l'embouchure. Et du coup, on arrive avec des pollutions qui se retrouvent dans le littoral et du coup, ça crée des problèmes.
Et c'est intéressant, mais c'est aussi drôle de se dire 53%, pour être plus précise, c'est vraiment énorme quand même. Est-ce que tu peux plus nous préciser le système de comment ça se passe? Là, tu as parlé d'un point de vue plus local avec Dinan, la Rance, etc. Comment ça se passe si on se place à Lyon ou ce genre de choses? Comment il se passe le système en général?
Donc, le système en général, c'est le cycle de l'eau. C'est ce qu'on apprend quand on est tout jeune. Nous, on le reprend dans nos études, mais c'est juste qu'on le reprend de manière plus précise, on va dire, et plus détaillée. Donc, de manière générale, on fonctionne en France, on fonctionne en bassin versant. Donc, un bassin versant, il y en a 6 grands bassins versants en France qui nous permettent du coup de fonctionner comme ça. Un bassin versant, c'est un espace qui est drainé par un cours d'eau et donc par ses affluents, avec une zone exutoire qui peut être, je ne sais pas, pour la Bretagne, par exemple, on a la Vilaine qui a son bassin versant, et la zone exutoire, c'est au niveau de Vannes, si je ne dis pas de bêtises, ou un peu après. Donc voilà. Ce bassin versant, il va drainer, en fait, donc que ce soit par ruissellement. Donc ruissellement, c'est sur les surfaces qui ne prennent pas en compte le fait que ce soit des cours d'eau. Lorsque c'est des cours d'eau, on parle d'écoulement. Et donc, du coup, on va avoir les précipitations qui arrivent, qui vont couler sur les surfaces, arriver dans le système hydrographique, descendre jusqu'à l'embouchure. Ensuite, du coup, on a ce phénomène d'évaporation et qui retourne du coup dans les surfaces nuageuses, qui va retomber et ainsi de suite. Ça, c'est le phénomène vraiment basique. Et pour détailler, je vous invite à venir dans mon master.
Et pour le coup, c'est hyper intéressant et ça montre bien la chose avec ton cas concret tout à l'heure, c'est que la pollution, en fait, elle intervient à tout niveau et qu'effectivement, elle est mesurée au niveau du littoral. Alors, c'est hyper frappant, là, quand on dit 53% des littorales, effectivement, c'est en France. Donc, c'est vraiment, voilà, on est un pays qui est vraiment à beaucoup de plages, de littoral pour le coup, sans répéter. Maintenant, la question serait, si je te donne une baguette magique, je la ressors souvent, celle-là. Dans l'imaginaire, si tu es président de la République française, quelles mesures tu voudrais mettre en place pour limiter ces pollutions-là, ces déchets plastiques ou toute autre pollution, finalement?
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que peut-être futur gestionnaire, il faut savoir que c'est des processus qui sont très longs. Et que quand on arrive avec des ambitions à l'échelle nationale, en fait, on ne peut pas agir à l'échelle nationale en disant « bon, bah, je vais réduire la pollution sur le littoral ». C'est trop large, en fait. Donc, notre travail, c'est vraiment de mettre la focale sur des endroits en particulier. Donc, pour quelle plage, pour quel type de plage, qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe en aval. Et donc, du coup, après, une fois qu'on a ça, donc il faut garder en tête que justement, oui, c'est des processus qui sont sur très long terme, donc sur 5, 10 ans, peut-être même plus. On va commencer à avoir des effets quand on met des choses en place, mais il n'y aura pas d'effet immédiat, en fait. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Nous, on est dans une société qui veut et qui attend des effets, ou des effets tout de suite, en fait, sur, à l'instant T. Et donc,
des résultats.
Oui, des résultats, voilà. C'était le mot que je cherchais. Ils attendent des résultats à l'instant T, alors que quand c'est la nature, elle ne fonctionne pas comme nous. Et donc, du coup, il faut lui laisser le temps de se mettre en place. Pour l'instant, en tant que président de la République, je n'ai pas de solution miracle pour réduire l'aménagement, réduire la pollution sur le littoral. Mais je vais y travailler.
Mais si on peut se poser la question, ou je peux te poser la question en tant que président de la République, est-ce que tu agirais plus sur les mentalités des personnes pour sensibiliser les personnes à moins polluer ou à leur dire, voilà, factuellement, les déchets plastiques, c'est qu'ils sont venus parce qu'ils ont été jetés, donc éviter tout cela. Ou t'agirais sur l'aménagement littoral, je sais pas. Alors, pour le coup, je m'y connais pas trop, mais faire des dunes, des choses pour essayer de limiter la pollution directement sur le littoral, mais l'avoir un peu en amont. Comment tu ferais ?
Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu évoques. Je pense que pour aller sur l'aspect plus peut-être social, pour en parler comme ça, on a une. Je pense qu'il y a un réel besoin d'éduquer les jeunes, la jeune génération et nos enfants qui vont arriver. Moi, je ne sais pas si j'en aurai. Et donc, du coup, d'éduquer nos jeunes à une approche qui va être plus éco-centrée. Quand je dis éco-centré, je m'explique. Éco-centré, ce serait qu'ils permettent qu'on cohabite et qu'on... Comment dire ? Ça paraît un peu utopique, mais qu'on s'inscrit dans une démarche où on fonctionne en synergie avec, du coup, les milieux naturels et qu'on ne sépare pas l'homme de la nature, comme on a pu le faire pendant des années et comme on continue de le faire à travers, justement, des parcs nationaux où on met un peu la nature sous cloche et on dit, ça, c'est la nature et c'est la représentation que nous, on en a. Et donc, du coup, ça peut créer des problèmes et ça, justement, cette déconnexion. Aujourd'hui, on est dans des approches qui vont être soit très anthropocentrées et donc, du coup, on va penser pour nous comme ce qu'on peut faire, justement, avec le fait qu'on agisse lorsque la nature nous rend des services écosystémiques et on n'agit pas pour la nature directement. Et aussi, on a du coup cette approche qui est un peu de l'autre sens qu'on voit beaucoup, et surtout dans ma génération, je vois beaucoup ça. C'est cette approche du coup qui, elle, va être biocentrée. Donc vraiment, c'est dire que la nature fonctionne très bien et que nous, on ne devrait pas faire partie de cette nature-là, justement. Et je pense que ce n'est pas la solution non plus et qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Je pense que en reparlant des parcs nationaux, les parcs marins font aussi partie de cette convention-là. Je pense que c'est un peu le même problème. Sur le littoral, on a une vision du littoral aussi qui est très pastorale, quoi.
Ok. Donc, voilà. Maintenant, pour parler, là, on a parlé vraiment de pollution, etc. Si on se détache de ce sujet, mais qu'on parle davantage des changements climatiques, tu en parlais au début, qu'effectivement, finalement, être gestionnaire hydrologue, je ne sais pas comment on dit, c'est pouvoir ne rien toucher dans la nature, à part effectivement s'il y a des changements climatiques assez lourds, notamment les intensifications de tempêtes. On peut parler aussi de l'élévation du niveau de la mer. Là, plus récemment, on a eu les débordements au niveau des canaux en Bretagne. Comment adapter l'environnement à tous ces changements climatiques ? Comment tu ferais ? Comment ça se passe ? Quelles sont les stratégies mises en place ?
Alors, pour parler sur purement techniquement, il y a des moyens qui permettent justement de ralentir les zones d'écoulement et donc qui vont permettre de réduire ces inondations-là, qui restent, je le rappelle, des choses normales. L'inondation récente qu'on a eue en Bretagne, on a eu la même milieu des années du 20e, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas la date précise. Et on a eu le même phénomène, en fait. Et il faut savoir que, on a eu une inondation, ça c'est un aléa. Le risque inondation en lui-même, il est là lorsque les populations, elles sont mises en danger. Et lorsque, du coup, il y a des habitations qui vont être dans ces zones-là. Il faut déjà réduire, je sais que ça commence à se faire un petit peu, mais à l'image de Valence, on voit qu'il y a des endroits où c'est pas encore fait. Il y a des inondations qui, où en fait les gens sont prévenus, mais le fait qu'il y ait des lobbies immobiliers, on continue de construire sur des zones qui sont inondables, donc du coup on augmente le risque, alors que pourtant le changement climatique n'y a rien fait. Les phénomènes sont les mêmes à peu près tous les ans, surtout sur la région de Valence, mais si on revient sur l'exemple de la Bretagne, on a des moyens qu'on peut mettre en place, donc du coup, comme ce que je disais, réduire l'écoulement et réduire le ruissellement à travers donc, du coup, des surfaces qui vont être végétalisées, des toits, etc. Ça, c'est pour l'aspect purement urbain. Donc maintenant, et pour l'aspect, si on parle des zones agricoles, les zones agricoles, c'est des endroits où l'eau, elle est fortement drainée. Donc elle arrive du coup dans des drains qui sont sur les côtés qu'on peut voir quand on passe dans ces zones-là. Et donc toutes ces surfaces participent justement à une accélération de l'eau qui va arriver dans ces systèmes-là et qui va provoquer, en plus de la pollution qu'on évoquait en début de podcast, ça va participer donc à une élévation forte à travers du coup ce qu'on appelle des débits instantanés. Donc l'eau arrive et elle n'a même pas le temps de s'infiltrer dans le sol et elle va du coup directement dans ces systèmes-là et du coup forcément on a des débordements comme on a pu voir à Rennes ces derniers temps. Mais après, ça reste des phénomènes qui sont normaux et ces phénomènes, ils vont s'amplifier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La seule chose qui amplifie ces phénomènes, c'est l'artificialisation du sol et le fait que du coup, ces surfaces-là soient imperméables.
Et peut-être question pour davantage être concret, en tant qu'hydrologue, comment on manage ce genre de problématique ? Est-ce que c'est une prise en amont de se dire « Ah, ils peuvent peut-être se passer des inondations en plein centre de Rennes ?» Comment on met des stratégies en place ? Qu'est-ce qui est concrètement, toi, plus tard, tu vas bosser en fait ? Sur quoi ?
Ok, donc... je vais prendre l'exemple du nouveau quartier qu'ils ont fait à Beauregard, là, à Quincé. Ils ont mis en place du coup un nouveau quartier qui a été construit avec des bassins d'orage, donc ce qu'on appelle des noues. Et donc ils vont avoir du coup ce rôle-là de ralentir ces zones. Et donc du coup, nous, on a l'aspect de, on va voir déjà ce qu'il y a sur place. En termes de faune, de flore, on va voir ce qui va être impacté ou non. Et ensuite, si on peut, pour réduire ces zones-là, on crée des ouvrages. Et ces ouvrages-là, du coup, ils vont servir justement à réduire ce risque d'inondation. Et je n'ai pas encore toutes les clés pour répondre à cette question techniquement.
Mais... Ouais. C'est surtout des choses qui sont liées peut-être avec des architectes. Je sais qu'il y a une ville dans le nord, après justement des inondations répétées, il y a un architecte qui a fait toute une ville avec ces problématiques-là, avec des ponts un peu partout, etc. Donc c'est peut-être aussi en lien avec des architectes finalement.
Oui, les architectes, ils ont vraiment il y a beaucoup de transdisciplinarité dans ce qu'on fait, avec des urbanistes, justement des aménageurs, des gestionnaires. Lorsqu'on parle d'études d'impact, lorsqu'il y a par exemple, quelqu'un veut construire un immeuble, et il va faire appel, va y avoir un architecte qui va être mis sur le coup, un urbaniste, et puis énormément d'acteurs au final qui vont se retrouver sur un sujet commun. Et donc, du coup, que ça soit des gestionnaires ou des gens qui justement vont faire des missions comme ceux de l'Adréal, qui vont être chargés du coup de missions environnementales avec ces démarches ERC, d'éviter le risque, de le réduire ou bien de le compenser. Et donc tous ces acteurs-là, ils agissent de manière à ce que des projets prennent forme dans l'urbain. Et nous, du coup, notre rôle, c'est plus sur des espaces qui vont être des milieux qui vont être naturels, donc des espaces où la faune, la flore sont primordial et du coup nous rendre des services écosystémiques.
Ok, donc en fait c'est vraiment un jeu de plusieurs acteurs qui travaillent en synergie et c'est hyper important de parler de ça parce que du coup ça prouve vraiment que d'une problématique, il y a tellement de branches d'acteurs, il y a tellement de aussi problématiques sous-jacentes en fait finalement qui travaillent en synergie pour travailler sur ça. Et on en parlait un petit peu avant, c'était le fait qu'effectivement, il s'est passé des inondations à Rennes, il va peut-être en avoir, tu le disais. Comment toi, tu imagines justement ces littoraux, ces espaces avec les canaux, ces zones d'eau dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ?
Bah alors, comme je le disais, on va avoir, lorsque on passera des seuils, les plus 2 et à l'échelle mondiale, ça va avoir des impacts régionaux et des conséquences. Donc, des conséquences qui ne seront pas forcément directes, mais qui seront plus par vagues. Donc, on va avoir une intensification des phénomènes de manière très localisée. C'est-à-dire que les moments où il pleut, il va plus pleuvoir. On va avoir des étés plus longs et du coup des hivers plus courts, mais avec du coup des températures plus chaudes en été et des hivers qui vont être plus rudes, plus froids peut-être. Et si je prends à l'exemple de Rennes, les périodes où il pleut beaucoup, peut-être qu'il va pleuvoir plus, et peut-être qu'il y a des moments où on va avoir des phénomènes du coup qui vont être vraiment plus intenses. Et donc dans 10-15 ans, ça va être, en fait, on va pas avoir un changement drastique de tout ce système là, mais juste du coup ces mêmes phénomènes qu'on a déjà, mais de manière intensifiée, que ce soit sur la température, sur les précipitations, sur plein de choses.
Ok. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour la suite ? Quels sont tes projets en matière d'études, de ta formation ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elliot ?
Que du meilleur. mais moi, j'ambitionne là, du coup, de finir mon master 1. Là. J'ai déjà postulé pour aller voir à l'Adréal. Là, je suis à l'Adréal qui est à Rennes. Donc, du coup, dans la division de patrimoine naturel et d'eau, soit dans la mission d'évaluation environnementale, dans une démarche purement de découverte quoi, de l'endroit. Et puis, à l'issue de ça, je vais faire mon master 2, et puis je verrai comment se passent ces choses-là, et si j'aimerais bien aller travailler peut-être dans les Alpes, dans des rivières. Dans des rivières et dans des cours d'eau qui ont des débits plus importants avec des processus peut-être hydrogéomorphologiques qui sont plus intéressants à étudier. Et donc peut-être que j'irai plus me tourner vers ça en master 2. Mais oui, pour l'instant, je suis vraiment encore dans une découverte et j'essaie de trier un peu tout ce qui se passe dans ma tête. C'est pour ça que je dis hydrologue, mais que pour l'instant, j'essaie surtout de prendre beaucoup de billes et de voir ce qui me plaît vraiment dans tout ça.
On te souhaite que le meilleur et de la réussite. Merci, Elliot. C'était super intéressant de parler de l'hydrologie, de l'aménagement littoral. C'est vraiment des sujets là, d'actualité qui émergent petit à petit en Bretagne. J'espère que ça a plu aussi à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez donner un petit commentaire pour échanger avec Elliot, si vous êtes d'accord ou pas, ou donner votre avis, n'hésitez pas. On adorerait connaître, en tout cas, celui-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast car plein d'interviews de nos jeunes arrivent très vite. À plus.